7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de la conversation. Il y a des gens doués pour cela, commenter les résultats du foot dans un petit maquis, échanger sur des histoires d'amour dans un taxi ou encore être le confident de ses collègues au bureau. La conversation n'est tout de même pas donnée à tout le monde. Bonjour Fanny Auger.
Bonjour.
Vous publiez Trêve de bavardage. Vous avez vécu dans des pays comme Dubaï où on ne peut pas parler de tout, comme le Liban où tout le monde parle tout le temps politique, ou encore l'Italie où la conversation est vraiment un art de vivre et ça rend les relations sociales le plus fluide. Et aujourd'hui, vous donnez des cours de conversation. C'est quelque chose qui se développe. Alors, comment la conversation nous marque? Qu'est-ce qui fait qu'une conversation peut changer notre vie? Je m'adresse aussi aux grands timides et aux solitaires qui ne savent pas toujours comment entrer en conversation avec l'autre. Et puis à tous ceux qui se demandent aussi comment retrouver l'usage de l'écoute, de la parole, en dehors des réseaux sociaux. Appelez-nous pour un petit brin de causette. Vous savez qu'on adore converser chez 7 milliards de voisins. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr pour dialoguer avec vous, Fanny Auger, spécialiste de la conversation. C'est Thomas qui entame la conversation en général avec les auditeurs, il est au standard, il est très doué pour parler aussi avec les voisins et les voisines. Et puis en fin d'émission, on aura un tout autre sujet, nous parlerons du concours RFI Challenge App que nous lançons aujourd'hui. Si vous nous écoutez, si vous avez un projet d'application smartphone pour aider les filles à réussir à l'école en Afrique francophone, eh bien sachez que ce concours va vous concerner. C'est la deuxième édition du concours RFI Challenge App et là ça concerne l'éducation. La compétition est ouverte à partir d'aujourd'hui et bien sûr elle est ouverte à toutes les idées innovantes pour relever le défi de l'éducation des filles avec le numérique. Vous saurez tout sur RFI Challenge App en fin d'émission. Voilà, mais pour l'heure nous démarrons la conversation et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous avez le droit de commenter, hein, Fanny Auger. Ndirette, qui est à Port-Royal, en Caroline du Sud, nous dit qu'elle adore parler avec sa cousine et ses amis pendant des heures. Même si, nous dit Ndirette, pendant les conversations, certains continuent de tchatcher avec leur entourage sur leur téléphone. Sous-entendu, on continue de faire des petits messages. Hein. Je m'endors moins bête, néanmoins, le soir, quand même. Comme quoi, la conversation peut rendre intelligent, c'est ça?
Absolument.
Abdoulaye, qui est à Conakry, en Guinée, Conakry. On parle en famille, mais moins avec les voisins chez moi. C'est plutôt bonjour, bonsoir. Les gens n'ont plus le temps pour parler ou le passent devant leur téléphone, avec leur téléphone. Alors ça, c'est quand même triste, si on ne parle plus avec ses voisins, même en Afrique, non? Vous le sentez, quoi, la conversation de la pluie et du beau temps se diminue, disparaît?
Je pense que toutes les conversations sont nécessaires, même les conversations sur les téléphones aussi. Tant que la parole peut fluctuer, peut se transmettre. Maintenant, effectivement, c'est dommage parfois d'être connecté au monde entier, mais d'avoir une difficulté incroyable à s'adresser à son voisin de palier ou la personne qu'on croise dans la rue. Les gens ne se disent plus beaucoup bonjour à Paris, notamment. Les gens sont toujours étonnés parfois quand je les souris simplement dans la rue. Et je pense que la conversation, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qui nous humain. Les animaux, ils communiquent mais ils ne conversent pas. Nous, on est le seul animal social qui est doué de cette conversation, cette faculté à converser. Et parfois, il faudrait peut-être y réfléchir un peu plus avant de commencer à ouvrir des dialogues comme ça.
Oui.
Des,
beaucoup moins léger qu'il dit pareil. La conversation de Djibril est à Kaï au Mali et nous dit on n'accorde plus la même importance aux discussions. On rejoint des plateformes d'échange, on parle de choses qu'on ignore simplement pour faire passer le temps. Mais là, c'est pas une émission pour faire passer le temps. On va essayer de comprendre à quoi sert la conversation et comment renouer le fil de cette conversation parfois perdue. Appelez-nous les voisins et les voisines dès maintenant surtout. Hein. N'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Le monde est un village planétaire.
C'est un village mondial. Donc on est tous des voisins, tous ensemble.
On est unis dans la diversité.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose qui nous rapproche.
C'est l'amour, ça.
Voilà,
d'accord.
C'est l'amour.
On est tous des voisins, encore faut-il savoir se parler. Vous nous appelez 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un voisin qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Issa.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour les invités.
Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Alors, êtes-vous un bavard? Avez-vous cette capacité à la conversation, Issa?
Oui, je suis bavard. Je parle trop aussi. Surtout au Tchad, les gens parlent beaucoup de sport. Ils parlent d'autres débats, par exemple de la culture. Mais moi, j'aime la politique. J'aime beaucoup discuter de la politique.
Vous parlez donc, vous semblez déplorer qu'on ne parle pas suffisamment de politique à N'Djamena avec ses voisins finalement, mais plutôt des résultats du foot.
Oui, ici je croise beaucoup d'amis et voisins en même temps. Nous avons pris le carrefour, on essaie de discuter ensemble, mais à chaque fois ils discutent de sport, du domaine de sport, mais de la politique, ils ne sont pas intéressés. Et moi, je ne connais pas beaucoup le sport, j'aime beaucoup la politique. J'aime beaucoup discuter. À chaque fois, quand j'allais sur les débats, ils sont en train de sortir des débats que j'ai là. Voilà, et ils ne parlent pas beaucoup, je ne comprends pas, parce qu'ils ne veulent pas, ou bien ils ne connaissent pas.
Bon, donc vous n'êtes pas un fidèle de Radio Foot International, mais pour vous, ça appelle sur l'actualité, hein, si j'ai bien compris, Issa, pour converser. Si vous êtes frustré de ne pas pouvoir parler politique avec vos voisins, vous appelez appel sur l'actu, sur RFI.
Oui. Oui, c'est exact, c'est la qualité. J'aime beaucoup la politique ici. Il y a un ami que j'essaie avec lui. Et on partage toutes nos idées ensemble. Et vous savez, au chat, c'est ce que je ne comprends pas. Les gens disent de côté négatif, ils oublient de côté positif. Par exemple, qu'on critique un gouvernement ou bien une partie politique. Et c'est ça qu'ils ont peur de parler. Et là, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas la politique. Moi, j'ai dit tous les deux côtés, que ce soit positif, que ce soit les réalisations qu'ils ont faites, des côtés positifs. Et je discute, on met nos idées ensemble pour partager.
Merci beaucoup de nous avoir appelés, Issa. Vous posez de bonnes questions sur la conversation. Faut-il toujours être d'accord pour que ça soit une belle conversation? Faut-il au contraire être en permanence dans le combat et le débat avec des oppositions fortes? Voilà, l'utilité de la conversation est posée de cette façon-là par Issa. Fanny.
Oui, alors moi je pense que la conversation elle nous permet d'affiner notre vision du monde. On peut converser pendant des heures avec des gens qui ne sont pas du même avis que le nôtre. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont réussir à nous convaincre au bout du compte, mais ça va nous permettre en tout cas d'écouter leurs arguments, pouvoir affiner nous notre opinion et pouvoir se forger son opinion, la renforcer, la nuancer aussi. Je pense qu'on est dans un monde qui va vite, où on n'a plus beaucoup de place pour la nuance. Et pour revenir à la conversation politique dont parlait Issa, aujourd'hui en France, ce qui est choquant depuis quelques semaines déjà, mais depuis dimanche soir, c'est que partout, dans les cafés, dans les taxis, partout où on va, tout le monde parle politique en ce moment. C'est vraiment le sujet.
Vous dites choquant, ou au contraire, c'est une bonne chose, non? Depuis les résultats du premier tour.
Oui, surtout qu'on a la chance de vivre en démocratie, dans un pays où on peut
exprimer. C'est une rare élection où les gens osent se demander pour qui tu vas voter, d'ailleurs. Oui. Ce qui a souvent été une question relativement intime en France. Hein. C'était pas une question qu'on posait si couramment, peut-être aussi parce que cette France était partagée en quatre. Vous avez vécu, Fanny Auger, dans des pays où se parler n'a pas la même place selon les sociétés, non ?
Oui, absolument. J'ai vécu pendant 5 ans et demi à Dubaï, qui n'est pas une démocratie. Donc ce n'est pas un pays où la parole est libre. Nous avons la chance de vivre dans un pays aujourd'hui où on a la liberté d'expression. Et la parole est libre, hein, mais là-bas, on signe, quand vous signez votre contrat d'embauche, on signe une charte vous disant que vous n'avez pas le droit de parler politique, ni religion d'ailleurs, au bureau.
Donc déjà, ça limite.
Oui.
Alors on parle de quoi ?
Ben alors on parle
les
travail.
Histoires d'amour, le travail.
On parle travail.
Et l'argent.
Oui.
En général, si on est à Dubaï, voilà. C'est qu'il y a un petit lien avec l'argent.
Ce sont des valeurs différentes.
Vous avez vécu à Beyrouth, en Italie.
Alors à Beyrouth, on n'a pas passé une bonne journée si on n'a pas eu une bonne conversation avec quelqu'un. Et j'adore ça, il paraît que c'est le cas dans d'autres pays, alors je ne sais pas si ça parle à nos auditeurs, mais au Brésil par exemple également, on n'a pas passé une bonne journée si on n'a pas eu une bonne conversation avec quelqu'un. Donc là-bas, dans un taxi, dans un café, dans la rue, les gens sont toujours amènes et avenants pour vous parler, vous demander, poser tout un tas de questions. Et en Italie aussi, on parle beaucoup, on dit souvent que les Italiens sont des Français de bonne humeur, on parle. En revanche, j'ai regretté pendant toutes ces années à l'étranger les conversations à la française. Conversations profondes, où on a horreur de parler de la météo et des choses un peu superficielles, et on aime bien tout de suite se lancer dans un débat politique ou dans des conversations profondes et émotionnelles et sincères.
Alors, quelle est cette conversation à la française ? Perdure-t-elle encore aujourd'hui ? Vous faites des petits schémas assez drôles dans votre livre, où souvent, c'est vrai qu'on commence par « tu fais quoi dans la vie ?» grosso modo.
Oui.
Le pire des stéréotypes pour démarrer une belle conversation ?
Oui, je crois qu'il y a des questions bateaux comme « tu fais quoi dans la vie ?» ou alors « salut, ça va ?» et on n'écoute même pas la réponse. Ou alors « quoi de neuf ?» Alors c'est tellement ouvert que je ne sais pas par où commencer. Sont un peu des questions... Alors, je vais défendre quand même les gens qui la prononcent parce que ça vous est peut-être déjà arrivé et moi aussi certainement. Au moins la personne, elle fait le premier pas. Elle a au moins le mérite d'aller vers vous et puis c'est une manière comme une autre de rentrer en conversation. Après, je pense qu'on devrait réfléchir et poser si on posait de meilleures questions, on aurait certainement aussi de meilleures conversations. Et la conversation dépend de nous, ça part de nous. Et réfléchir peut-être à des questions plus judicieuses, plus authentiques, plus sincères, qui nous amèneront vers de meilleures conversations.
Tout cela demande un effort tout de même. Si on s'en réfère à Diderot au XVIIIe siècle, qui écrivait « la conversation est un délassement ». Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, avec tous les efforts que vous décrivez, nécessaires pour une belle conversation ?
Je pense qu'effectivement, comme on est doué de la faculté de parler, on ne réfléchit pas nécessairement à ce qu'on va dire, à la conversation qu'on va avoir. Néanmoins, il est toujours plaisant de rencontrer une autre altérité, de rencontrer l'autre, d'aller à la rencontre de l'inconnu. Et je pense qu'il y a plein de bénéfices qu'on peut en tirer pour nous rendre plus humains, plus entiers au monde.
Ouais. Alors vous publiez franchement pratiquement un guide de la conversation. Il y en a eu des centaines, des milliers des guides depuis le XVIIe siècle en France. Hein. C'était vraiment un usage d'offrir un guide de la conversation.
C'était un art. C'est là où est née l'expression dans les salons mondains du XVIIe et du XVIIIe siècle en France. C'est là où est née cette expression, l'art de la conversation. Alors, avec ses limites aussi, parce que parfois ça pouvait se transformer en des joutes verbales où il s'agissait de briller, de moucher son adversaire. On n'était pas forcément dans l'écoute absolue. En revanche, aux États-Unis par exemple, il y a des pays où la conversation c'est plus une technique. Le best-seller de la conversation est sorti dans les années 30. Il s'appelle « Comment se faire des amis ?». Et le sous-titre, c'est « Et influencer les gens » par Dale Carnegie. Et c'est encore aujourd'hui le best-seller sur la conversation. Mais dans ce guide, la conversation, c'est davantage une technique à l'américaine. On se fait des amis pour obtenir quelque chose que plutôt une vraie conversation libre et désintéressée.
Vous dites que votre vie est faite de petits miracles qui se sont produits grâce à de bonnes conversations. Désintéressée pour le coup ?
Oui, absolument. Je pense qu'on parlait tout à l'heure du réseau. Je pense que le meilleur réseau, c'est le réseau qu'on se fait sans y penser, sans avoir d'idée derrière la tête. C'est simplement la rencontre. Et ensuite, on peut s'en servir ou pas d'ailleurs. Mais oui, je pense que dans la conversation, il faut être désintéressé pour être vraiment ouvert à l'altérité.
Alors, il y a des auditeurs là qui se disent « Oh là là, moi j'ai du mal déjà à discuter avec mon voisin, ma voisine, je suis timide. » Et je me dis « Ah, si seulement j'avais pu parler avec un tel. » La conversation est-elle une technique ? Est-ce qu'on peut apprendre l'art de cette conversation ou bien une ouverture spontanée, humaine à l'autre que l'on a reçue au berceau, à la naissance, si je puis dire ? Appelez-nous en tout cas pour nous parler de vos difficultés ou pas à converser. 33 1 84 22 71 71.
I would have never thought I'd be
Brussels, My Enemy, chez 7 milliards de voisins. Nous conversons aujourd'hui, et c'est extrêmement agréable avec vous, Fanny Auger, de l'utilité de la conversation. Alors, vous nous parliez de cette vision très utilitaire des Américains, de la conversation, si possible, si ça peut rapporter un job, faire du réseau. La conversation à la française est-elle en train de se perdre, d'ailleurs? Une conversation qui est davantage axée sur une forme d'échange intellectuel. Vous avez créé une école de la vie, School of Life, en France, qui donne, entre autres, hein, alors bien sûr il y a des cours de développement personnel, etc., mais des cours de conversation, moi je ne savais même pas que ça existait, à vrai dire.
Effectivement, ça fait plus de 3 ans maintenant que je donne des cours de conversation, 2 fois par mois à Paris, à la School of Life, qui est une petite école de la vie pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire pas mal de choses finalement. Ces cours de conversation, en commençant à les enseigner, je pensais qu'il n'y aurait que des grands timides et des anxieux, des introvertis qui s'y rendraient. Et finalement, je suis étonnée du succès de ces cours. Le cours s'appelle « Comment avoir de meilleures conversations » justement. Et chaque fois, je rencontre 30 adultes. Certains sont très bavards, mais ont l'impression de tourner en rond parfois dans leur conversation, de faire leur numéro de claquette, de répéter la même chose.
C'est-à-dire de ne pas écouter l'autre en fait.
Voilà, ouais. Et de ne plus être de ce couper eux-mêmes de l'autre parce qu'on attend d'eux qu'ils fassent un petit numéro de conversation et qui ont envie de se poser, donc qui viennent passer une petite soirée, 3 heures de conversation avec moi pour se réinspirer. Les cours sont très interactifs, donc il y a sans arrêt des petits ateliers. Je leur demande de converser 2 par 2 avec un inconnu. Et mon livre, c'est un peu la somme de tout ce que j'ai appris parce que je leur transmets des choses. J'ai beaucoup étudié la conversation, mais eux m'en apprennent tout autant. Et mon livre, c'est vraiment le condensé de toutes ces belles rencontres. Il y a plus de 1800 personnes qui ont assisté à mes cours de conversation.
Vous dites que les entreprises aussi s'intéressent à ça.
Oui.
De quelle manière ?
Ce qui les intéresse, c'est que pendant longtemps, par exemple, leur personnel de vente, qui est aux prises directes avec les clients, les consommateurs, sont très bons, ils sont très bien formés au niveau technique, ils savent exactement ce qu'ils vont vendre. Mais en revanche, ils ont beaucoup de mal à créer du lien, à créer une relation. Alors même si on sait que c'est un tout petit peu biaisé, parce qu'au final, on aimerait leur vendre quelque chose, mais néanmoins, c'est simplement la nuance, la manière de dire bonjour, la manière de s'intéresser à la cliente ou au client, de le faire parler.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de très automatique maintenant, hein, quand les vendeurs veulent vous vendre quelque chose. On n'a pas l'impression qu'on entre en conversation.
Non, c'est assez technique. Et puis, on voit, il y a des vendeurs étrangers, plutôt asiatiques, qui ont tendance à ne même pas dire bonjour. Ils montrent quelque chose sur le téléphone portable et tac, tac, ça doit être comme automatique. Ça pourrait être des robots qui feraient l'acte de vente, ce serait la même chose. Moi, je suis toujours sidérée quand je vais aux États-Unis. La vendeuse vous demande « Hi, how are you ?»
Exactement. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?« How are you today ?»
Et chaque fois, je me dis « Mais est-ce que je la connais ?» Oui. Enfin, c'est presque trop.
Alors finalement, aujourd'hui, vous dites l'un des secrets de l'entretien d'embauche, c'est de transformer cet entretien en conversation. Mais comment est-ce possible ?
Alors l'entretien, c'est vrai que c'est une conversation très normée. On sait ce qu'on va vous demander, a priori, on sait ce qu'on attend de vous présenter. Je pense qu'effectivement, quand l'entretien très normé se transforme, glisse vers une véritable conversation, c'est-à-dire un véritable échange, une rencontre, c'est gagné. Au sens où la directrice des ressources humaines va pouvoir projeter, se dire « Tiens, cette personne, on partage les mêmes valeurs, la même vision de notre entreprise, de la société. Elle va pouvoir s'entendre avec mes collaborateurs et s'inscrire dans le projet de mon entreprise. » Voilà pourquoi je parle de la conversation.
Est-ce qu'une conversation, c'est toujours à 2, à 3, petit nombre ?
Alors, je pense que ça dépend de chacun, c'est à chacun de trouver son modus operandi. Je pense qu'au-delà de 3, ça peut donner un tintamarre et souvent les groupes ont tendance à se scinder ensuite, 2 par 2. Personnellement, je savoure vraiment les conversations en tête-à-tête.
Qu'est-ce que vous faites faire comme exercice pratique à vos apprenants en conversation ?
Alors justement, pour revenir à ces questions bateaux qui nous embêtent un peu, tu fais quoi dans la vie ? Je leur demande de réfléchir à une réponse alternative. Qu'est-ce qu'ils pourraient répondre au lieu de dire « je suis comptable » ? Je ne sais pas s'il y a des comptables qui nous écoutent, mais j'en ai parfois qui viennent à mes cours et qui me disent qu'ils ne sont pas très populaires quand ils annoncent leur métier. Donc je leur demande de réfléchir à des choses alternatives. Est-ce qu'on pourrait pas répondre ?
On en parle dans 3 minutes. Appelez-nous.
Bonjour. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, savons-nous encore converser à l'heure des réseaux sociaux? Comment se transforme la conversation? Pourquoi savoir entrer en conversation est quelque chose qui reste important dans la vie de tous les jours? Comment savez-vous converser les voisins? Trouvez-vous que la conversation a changé votre vie aussi? Parfois, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nous en discutons avec vous, Fanny Auger. Vous publiez Trêve de bavardage. Retrouvons le goût de la conversation, c'est une forme de guide, mais avec beaucoup de questions pour s'interroger, notamment sur d'où vient cette conversation, la conversation à la française, et puis toutes les autres, parce que dans le monde entier, bien sûr, on se parle. Et vous avez également, vous donnez des cours de conversation, ce qui est quand même assez singulier. Nous allons être bientôt au téléphone avec Guillaume Villemot, qui lui aussi s'intéresse à ce sujet, mais je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur qui nous appelle de Détroit, aux États-Unis. Bonjour Boris.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu. Alors je ne sais pas comment entamer la conversation avec vous, mais si vous nous appelez, c'est que vous avez quelque chose à dire sur le sujet.
Oui, oui, je suis bien curieux par rapport à ce sujet. En fait, je crois que communiquer, en fait, on apprend beaucoup. On apprend énormément. C'est-à-dire, en fait, il y a des échanges, quoi, en conversant. Mais je regrette vraiment quelque chose. Aujourd'hui, les gens communiquent moins à cause de l'arrivée de Facebook et Internet. Et vraiment, c'est vraiment regrettable. Ici, aux États-Unis, en fait, les gens se retrouvent pour parler uniquement des sujets professionnels. Bon, vraiment rien d'important.
On parle du travail, en fait, c'est ça.
Moi, alors, si je communique, je peux être au téléphone avec ma mère, on peut être là pendant une, deux, trois heures et à raconter les mêmes
choses. Trois heures? Vous pouvez avoir trois heures de conversation avec votre maman?
Rien.
Waouh, ouais.
Yeah.
Et vous avez toujours quelque chose à lui raconter ou à écouter de votre maman?
Il y a toujours quelque chose à dire.
C'est beau.
Quelque chose à dire. Et on peut être là en train de raconter ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, ce qui s'est passé en ce moment. Et...
Ah, on a été coupé avec...
Mais lorsque je parle avec des amis, c'est surtout éducatif ou encore formatif. En fait, on parle de foot, on parle de politique, mais avec la famille, c'est juste...
Ouais. Bon, c'est fou ce que le foot et la politique, quand même, sont des sujets qui reviennent dans les conversations depuis le début de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Boris. Nous sommes en ligne avec Guillaume Villemot. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez une vision assez politique de la conversation, mais au sens de la chose publique, parce que vous êtes le cofondateur avec l'écrivain Alexandre Jardin du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre. Vous avez aussi créé un festival des conversations, je veux dire, je ne connaissais pas. Et vous publiez le pouvoir des mots, oser les conversations, ou comment les nouveaux outils de communication peuvent devenir de véritables espaces de conversation. Vous en connaissez un rayon sur la conversation. Parlez-nous notamment de ce festival des conversations, parce que je sais qu'il y a même eu un festival au Maroc l'année dernière.
Ouais.
Donc dans des pays où les cultures de la conversation sont bien différentes.
C'est ça qui est intéressant avec le festival, c'est de donner aux gens de retrouver le goût de la conversation. Ce que vient de dire votre auditeur, là, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de se dire, voilà, ça peut être très léger une conversation, ça peut partir comme ça, et il y a cette magie de se laisser porter à un moment donné et d'arriver... On ne sait pas bien où, mais il faut savoir mettre fin à une conversation, ça c'est important. Mais en revanche, d'avoir quand on a fini une conversation, c'est toujours amusant de essayer de retracer un petit peu le chemin qu'on a pris pour arriver à cette fin-là.
Et savoir mettre fin à une conversation, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que beaucoup disent que c'est compliqué d'achever bien une conversation. C'est-à-dire que ça ne se termine pas avec un ennui...
Il faut savoir s'arrêter parce qu'au bout d'un moment, on finit par parler pour ne rien dire. Et c'est là où il faut décoder le moment où on arrête de tourner en rond.
Mais avec une phrase très conventionnelle à l'américaine, j'ai été ravi de vous rencontrer.
Ça dépend des cultures. Vous allez avoir effectivement plein de cultures différentes. Si vous êtes sur un débat, une conversation pardon, américaine, vous aurez effectivement ça. Si c'est sur quelque chose de plus latin ou plus français... ça sera, bah, écoute, à bientôt, on se revoit, etc. Mais on arrive à suspendre les conversations. Et la grande nouveauté dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux, entre autres, c'est qu'on a la possibilité à tout moment de reprendre une conversation. Quand vous voyez aussi bien les abris de bus qui aujourd'hui vous permettent de connecter votre téléphone pour ne pas tomber en panne de batterie, jusqu'à toutes ces fenêtres de conversation qu'on a à notre disposition, elles permettent de susciter des débuts de conversation qui très vite, on se rend compte, c'est ça que je trouve très intéressant et assez passionnant aujourd'hui, font que vous avez envie de vous retrouver dans la vraie vie pour avoir une conversation physique et réelle avec la personne avec laquelle vous avez initié cette conversation digitale au démarrage.
Ça serait ça, là, finalement, une conversation digitale réussie, ça serait de se donner les uns les autres l'envie de se retrouver dans la vraie
bien
vie,
sûr.
Non ?
Ouais, complètement, complètement. Finalement. Mais vous le trouvez aujourd'hui, c'est assez amusant parce que quand vous regardez par exemple quelque chose qui est très décliné, qui sont les jeux vidéo, les jeux en réseau où on joue avec World of Warcraft, etc., qui sont des trucs qui pour moi sont totalement de une autre culture, mais vous rendez compte que la majorité des jeunes qui jouent à ces jeux-là, une des premières choses qu'ils font derrière, c'est de se retrouver dans la vraie vie avec des gens qu'ils ont rencontrés en ligne.
Ouais.
Pareil aujourd'hui avec des sites de rencontres comme Mythic par exemple, qui organisent très vite des rencontres gros groupés où on n'est pas tout seul, mais par thématique, par centre d'intérêt. J'aime le vin, donc on se retrouve à plusieurs autour du vin, etc. etc.
Oui, enfin en même temps, on dit beaucoup quand même que les geeks, hein, par définition, ce sont ceux qui n'ont pas de conversation, qui ne savent pas entrer en communication avec les autres.
C'est vrai aussi, mais vous savez, c'est comme si on revient quelques années en arrière, c'est le même effet que ce que la télévision a pu avoir quand elle est rentrée dans les foyers et que c'était la quatrième ou la cinquième personne qui venait s'asseoir à table. Et vous avez des images terribles de gens qui passaient leur repas à regarder la télévision et à ne plus parler. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui s'est terriblement accéléré et où il y a 10 ans, Facebook, enfin Twitter n'existait pas. Donc il faut qu'on apprenne à dominer ces outils de conversation qu'on a à disposition. Les gens qui sont timides le sont ni plus ni moins. Les gens qui étaient addicts le sont ni plus ni moins. Simplement, c'est accéléré et c'est un poil renforcé.
Bon, dernière question. Alors, Guillaume Villemot, l'art d'une conversation sincère, enrichissante, pas la conversation utilitaire, bien évidemment. Donnez-nous quelques recettes, quelques conseils avant qu'on se quitte.
Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il faut faire qu'une seule chose à la fois, c'est être totalement concentré sur la personne avec laquelle vous êtes en train de converser. Converser, étymologiquement, c'est faire avec, c'est construire avec l'autre. Donc il y a une forme de générosité totale. Et pour que cette conversation soit réussie, c'est qu'il faut que vous donniez totalement. Pour que cette conversation soit réussie, il faut que vous ayez ce moment de partage avec l'autre. Et il y a un a priori qui est un a priori positif. On va dans une conversation avec bienveillance. On peut ne pas être d'accord, mais il faut être bienveillant, ne serait-ce que dans la capacité à écouter et à entendre l'autre. On va être attentif à ce que l'autre va nous dire. Et ensemble, on va construire ce morceau de chemin que va être la conversation.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Villemot. Ce sera justement le mot de la fin pour cette conversation. C'était un vrai plaisir de parler avec vous. Vous publiez Le pouvoir des mots, oser les conversations, ou comment les nouveaux outils de communication peuvent devenir de véritables espaces de conversation. Et c'est publié chez l'éditeur L'Instant qui suit. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Guillaume. Fanny Auger, avant qu'on se quitte, l'art d'une conversation sincère, enrichissante, faire, ne pas faire, quelques conseils, quelques pièges peut-être. Ce que vous voyez de pire et de meilleur chez vos étudiants en conversation.
Alors, je suis absolument d'accord avec ce que disait Guillaume à l'instant. Il y a des ingrédients essentiels, c'est l'écoute, c'est l'envie et la bienveillance, l'ouverture aux conversations. Maintenant, il y a quelque chose qui pose souvent problème, c'est comment briser la glace. Comment aller vers une personne à qui on a envie d'adresser la parole, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et ce que je recommande, c'est, par exemple, chacun trouve son modus operandi, mais commencer par un petit compliment. Il y a des pays où on se complimente beaucoup. Pour avoir vécu au Proche et au Moyen-Orient, les femmes se complimentent beaucoup. Et c'est juste une manière comme une autre de briser la glace.
C'est pas de l'hypocrisie.
Non, c'est quelque chose d'un peu anodin, de léger, et voilà. Et puis on peut le reprendre si la personne rebondit dessus, raconter une petite anecdote. Ces boucles d'oreilles me viennent de ma grand-mère et ta-ta-ta-ta, on déroule le fil de la conversation.
Voilà, donc commencez par des compliments, si possible sincères.
Si possible, bien entendu.
Un autre conseil ?
Restez à l'écoute, restez en lien. Le regard est très très important dans une conversation. Être attentif à son auditeur. S'il doit partir, hein, s'il veut faire cesser la conversation, justement, restez en lien avec la personne en face.
Et à l'écoute.
Et à l'écoute.
Eh bien, nous sommes à l'écoute d'un voisin qui nous appelle de Marois, dans le nord du Cameroun. C'est Babani. Bonjour Babani.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Je crois que vous avez envie de poser une question à Fanny Auger, notre spécialiste S-conversation, parce que vous avez du mal à nouer la conversation avec les autres.
Voilà. En fait, moi, j'ai un petit souci.
Oui. Coupez la radio, Babani. Coupez la radio parce que vous entendez en écho. Alors après, vous êtes forcément un peu déstabilisé pour vous exprimer à l'antenne. On vous écoute, Babani.
Vous exprimez à l'antenne. On vous écoute.
Oui, j'ai dit ceci. Allô ?
Oui, allez-y, vous êtes en direct, Babani.
Oui, j'ai dit que voici le problème avec moi. Quand je suis avec mes amis ou ma famille, je peux causer de tout et de rien sans avoir la traque, quoi. Mais dès que je suis en face des inconnus, même quand ils causent des choses que je maîtrise bien, je n'arrive pas à prendre la parole.
Oui. C'est le stress, c'est le trac qui monte. Alors c'est vrai cela que dès qu'on est avec une personne que l'on ne connaît pas, sans même prendre la parole en public, il y a une forme d'inconfort dans le démarrage de la conversation, Fanny Auger.
Effectivement, mais je pense que l'inconnu fait peur, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que va dire l'autre. Moi, je pense au contraire qu'il faut le prendre comme tout est source de révélation potentielle. Justement, c'est une source de richesse incroyable d'aller à la rencontre de l'autre. Les gens que vous rencontrez dans la rue, les gens avec qui vous travaillez, ne sont pas des figurants bien payés dans la pièce de théâtre qui est votre vie, mais au contraire, ils sont vivants, le monde autour de nous est vivant. Et je pense que vraiment y aller en se disant « je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir », vers où la conversation va nous mener, mais on y va comme dans un voyage, comme dans une aventure, une découverte.
Oui, alors vous êtes extraordinairement positive, il y a quand même des conversations très ennuyeuses, il y a des conversations agressives, il y a des conversations où on se retrouve à faire une gaffe soi-même ou l'autre, à dire quelque chose de désagréable. Comment on sort de tous ces pièges ?
Je pense que la sincérité, l'authenticité, c'est vraiment important, ne pas hésiter à s'excuser si on voit qu'on a par exemple fait une gaffe.
Alors, oui, vous dites, il y a tout un art dans la façon de s'excuser, on ne s'excuse pas n'importe comment.
Effectivement. Encore une fois, l'authenticité, dire bah, écoute, je me suis trompée, je reviens sur ce que j'ai dit, je sens que je t'ai froissée, et vraiment mettre son interlocuteur à l'aise. On vient à la bienveillance et à l'ouverture et à l'écoute.
Avoir du bzaz, d'où vient ce mot du bzaz?
Je prononce pazaz, mais je sais que c'est un nom qui vient de l'américain des pays anglo-saxons. Le pazaz, c'est avoir du chien. Pas du tout au sens sexuel d'ailleurs, mais c'est avoir du charisme. Il y a des gens comme ça qui entrent dans une salle et tout de suite tous les regards se retournent vers la personne. Pas forcément la plus belle ou la plus intelligente, mais elle a quelque chose. Et pour moi, le fond de la chose, c'est dû aux émotions qu'elle provoque. C'est son regard, son attention à la moindre personne qui est dans cette salle. Elle sait capter les regards, mais elle sait aussi les retenir et créer des émotions nouvelles chez les gens. Et c'est ça pour moi.
Les bêtes de scène ne sont pas forcément ceux qui ont la meilleure capacité de conversation à deux ou trois, non ? Ceux qui aiment faire le show, d'une certaine façon.
Effectivement, c'est peut-être... Et parfois, ce sont de grands timides aussi. Mais je ne sais pas si faire son show, c'est vraiment une conversation. J'en doute, justement. C'est pour ça que je préfère la conversation à deux.
Alors, parmi tous les conseils qu'on trouve dans votre livre, il faut avoir du tact, de la mémoire, se souvenir d'une autre conversation précédente avec cette même personne. Évidemment, l'autre se sent important dans ces cas-là, donc mieux vaut avoir de la mémoire.
Oui, c'est un peu un exercice, ça, mais je pense que la mémoire, c'est un muscle.
C'est ce que savent faire les hommes politiques, d'ailleurs, en général.
Oui, absolument, hein, oui. Mais ne serait-ce que de se rappeler du nom des gens, ça montre l'intérêt qu'on leur donne. Et je sais que se rappeler du nom du barman qui vous sert votre petit café tous les matins, c'est vraiment très important. Ça remet de l'humain au centre.
Et ce fameux tact, quel est-il de la conversation ? Un tact de la conversation ?
Le tact, je crois que c'est Churchill, Winston Churchill, qui disait que le tact, c'est la faculté d'envoyer tout le monde au diable, mais qu'ils aient envie d'y aller et qu'ils soient pressés d'y aller. Et j'aime beaucoup cette idée. Je pense qu'il faut effectivement du tact pour ménager son interlocuteur. Mais on peut tout dire. La parole est libre. On a la chance de vivre dans une démocratie où la parole est libre. Donc on peut dire un peu ce qu'on veut tant qu'on n'empiète pas, on respecte l'autre.
Ouais. Alors bien sûr, il y a les conversations à la radio, comme on est en train d'en avoir une, mais c'est vrai qu'en France, on converse beaucoup autour d'une bonne table. En général, on parle de ce qu'on mange et on mange en parlant d'autres choses également.
Et pendant des heures. Pour avoir vécu à l'étranger, les gens me disent, mais les Français, c'est incroyable, vous êtes toujours en train de parler du repas que vous avez eu, le repas que vous avez, le repas que vous prendrez. Et souvent, on ne dit jamais à une amie, viens, on va se promener pour parler. C'est toujours, on se réunit autour d'un café, autour d'un verre, autour d'un déjeuner. La table tient une très très grande place.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Fanny Auger pour ces moments de conversation.
Merci.
Il faut absolument lire votre livre qui est profond, c'est pas seulement un guide d'utilisation pour renouer avec la conversation. Vous publiez Trêve de bavardage et c'est publié chez Kéro. Et puis il y a aussi vos cours de conversation pour ceux qui vivent à Paris. Dans quelques instants, on parle de la deuxième édition du concours RFI Challenge App. Merci à vous Fanny Auger.
Merci beaucoup.
Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qu'est-ce qui viole les filles? Soir dans les parkings. Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive en ville.
Très belle chanson de Michel Berger, Quand on arrive en ville, reprise par Fine. Deuxième édition du concours RFI Challenge App. C'est vrai qu'on parle régulièrement d'éducation chez 7 milliards de voisins, vous le savez, vous êtes des millions à avoir décidé qu'on pouvait apprendre maintenant sur Internet, et puis souvent seulement avec le petit smartphone dans la main. Mais qu'en est-il pour ceux qui sont privés d'éducation? Eh bien, c'est tout l'objectif de notre concours, deuxième édition de RFI Challenge App. Bonjour Sina Toussaka.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous travaillez dans l'équipe des nouveaux médias numériques à France Média Monde, notre groupe. Et cette année, eh bien, le concours RFI Challenge App porte sur l'éducation des filles.
Alors, le RFI Challenge App Afrique, donc, c'est une compétition qui vise à développer des solutions mobiles ou juste des services numériques dans le domaine de l'éducation des filles cette année pour sa deuxième édition.
Voilà, l'année dernière, c'était sur la santé.
Exactement. Donc l'objectif, c'est de faire émerger des services numériques qui pourraient améliorer l'éducation des filles en Afrique et aussi d'encourager la mise en réseau et la facilitation des échanges entre éducateurs, enseignants et associations.
Comment ça va se dérouler ce concours concrètement?
Alors le concours sera lancé, est déjà lancé donc aujourd'hui. Les candidats doivent proposer donc dès maintenant à l'adresse appafrique.rfi.fr/participer un projet en français innovant, pertinent et applicable en Afrique francophone qui permettrait d'améliorer l'éducation des filles en Afrique. Le règlement est disponible en ligne et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 juin 2017.
Et bien sûr, pour ce concours, il n'y a pas seulement RFI, on a des partenaires.
On a plusieurs partenaires donc, que je tiens à remercier ici. Donc, il y a l'OIF, il y a Microsoft, il y a Facebook, il y a Orange, il y a des incubateurs sur place en Afrique de l'Ouest et il y a aussi Plan International et ONU Femmes.
Voilà, le numérique mobilise vraiment le continent aujourd'hui dans sa dimension également sociale. Pour ce concours, l'Organisation internationale de la francophonie est l'un de nos partenaires, vous le disiez, Sinatou. Bonjour Maoumba Mabayala.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'OIF. Dites-nous pourquoi vous avez décidé de faire partie de l'aventure de ce concours RFI Challenge App Afrique.
Mais c'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Vous savez, le numérique, c'est une chance, surtout pour la nouvelle génération. Il y a des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre il y a 20 ans qu'on peut résoudre beaucoup plus facilement maintenant. Et en plus, dans notre stratégie jeunesse de la francophonie qui a été adoptée à Dakar par le chef d'État, nous avons l'obligation et la passion de promouvoir la créativité numérique chez les jeunes. Et ça fait également partie de la stratégie numérique de la francophonie. Alors, donc pour nous, c'est une chance vraiment de cette opportunité.
L'éducation des filles progresse sur le continent africain, mais pas toujours assez vite, hein, c'est vrai aussi, il faut le redire. Aujourd'hui, même des enfants et des jeunes peu éduqués savent se servir d'un smartphone. C'est fascinant quand on va en Afrique. Hein.
Voilà.
On a des parents qui nous appellent dans l'émission pour dire « Mon enfant de 9 mois va sur Google avec le smartphone, est-ce que c'est normal ?» Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir un smartphone, le numérique en tout cas peut tout changer dans l'éducation d'un enfant s'il y avait des applications très bien faites pour éduquer.
Oui, c'est une opportunité, mais bien entendu, le numérique, c'est un outil, ça ne résout pas tout, parce qu'il y a pour que les enfants apprennent, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en
considération. Ça pourrait être un complément,
notamment
dans les écoles où on manque de manuels scolaires.
Absolument,
par exemple.
Ça peut être un complément. Donc, il faut prendre cela comme. Il y a un environnement d'apprentissage dans lequel, évidemment, intervient l'enseignant, il y a les matériels didactiques, il y a des outils, et le numérique peut être utilisé comme l'un des outils qui facilite l'apprentissage. Voilà, en Afrique comme ailleurs, et en Afrique particulièrement parce que on est en train de faire un saut dans le temps. C'est comme si on vivait en accéléré ce que les pays occidentaux ont vécu en plusieurs années.
Hein. Alors, quels vont être les critères pour départager les candidats sénatoriaux, un jury qui va se réunir, qui va lire les envois, les projets qui vont être envoyés?
Alors, je disais qu'il y avait un jury. Donc, le jury sera présidé par toi, Emmanuel. Et du coup, dans ce jury, donc, il y a nos partenaires qui sont assez pertinents dans le domaine de l'éducation, dont je parlais de plan international, mais aussi des incubateurs techniques et qui sont très au fait donc de comment évolue l'écosystème en Afrique. Les critères sont quand même assez simples, c'est d'être innovant, c'est d'abord on veut de la créativité, comme disait monsieur le directeur, c'est d'être pertinent et tout de suite applicable, pas seulement dans un pays, mais en Afrique francophone, voilà.
Ouais. Alors, bien sûr, ce jury va prendre connaissance des dossiers. Les candidats, les petits génies du numérique, c'est le moment de vous faire connaître, hein, puisque vous l'avez compris, ce concours RFI Challenge App Afrique pour l'éducation des filles est ouvert à toutes les idées innovantes. Il y a une date limite de candidature, Sinatou.
Le 30 juin, donc les trois finalistes avant ça seront invités à présenter leur projet en octobre. Mais voilà, la date limite, c'est le 30 juin 2017. Ensuite, il y a une période de présélection des 10 finalistes, des 3 finalistes qui seront invités donc en octobre prochain à Abidjan.
Voilà. Et donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer votre candidature sur le site. On va redonner l'adresse.
afrique.rfi.fr/participer.
Voilà, ça fait 2 mois, évidemment, soit pour pondre un projet, mais en général, ce sont des jeunes qui ont déjà des projets dans le numérique, qui sont déjà en lien peut-être avec des incubateurs. Que gagnent les finalistes et le gagnant?
Alors, le gagnant, donc, il a un financement de 15 000 euros pour développer son projet.
Oui.
Les 10 candidats présélectionnés bénéficieront de formations, d'accompagnement et de programmes d'aide au développement donc de leurs projets aussi en ligne par les partenaires de l'opération Microsoft et Facebook.
Ouais, Maumba Mabiala, ce genre de concours, vous pensez que ça peut aussi susciter des vocations pour des jeunes qui sont doués en informatique, qui ont des projets de start-up, pour susciter des vocations sociales aussi pour ces start-up?
Ah oui, nous les voyons chaque jour parce que nous lançons aussi à l'OIF plusieurs initiatives qui encouragent la créativité numérique, et il y a toujours des génies qui émergent de ce genre d'initiatives. Donc c'est une opportunité, c'est pourquoi nous encourageons cette opportunité, parce que nous savons qu'il y a un grand potentiel auprès des jeunes, et ça c'est une opportunité justement pour faire jaillir ce potentiel-là qui est dormant en quelque sorte.
Aujourd'hui il y a des applications qui se créent presque tous les jours hein, sur le continent africain, que nous ne connaissons nous-mêmes même pas parfois, et qui ont pour beaucoup d'entre elles une utilité. Ça peut être pour des agriculteurs, pour des éleveurs, pour tout type de secteur aujourd'hui.
Absolument, absolument.
Et l'éducation, alors, qu'est-ce qui va naître de ce concours? Parce qu'effectivement, sur l'éducation, on a l'impression qu'on reste encore dans une vision un peu traditionnelle, hein. Le maître, l'école, les manuels.
Ah oui. on doit innover et le numérique constitue une opportunité parce que c'est vrai qu'on reste encore dans les traditionnels, mais tous ces outils-là, il faut les mettre au service de l'éducation. Pour le moment, en Afrique, les enjeux sont encore, les défis sont encore extrêmement nombreux. Ils se situent au niveau de l'accès. Malgré tous les progrès, et il y en a beaucoup qui ont été accomplis, il y a encore des millions d'enfants qui sont en dehors du système scolaire, qui ne vont pas à l'école du tout. Maintenant, le deuxième enjeu, qui est extrêmement important aussi, c'est que beaucoup d'enfants qui vont à l'école n'arrivent pas à atteindre les résultats escomptés. Nous avons fait avec la CONFEMED, la conférence des ministres de la jeunesse, de l'éducation nationale, des enquêtes pour évaluer les apprentissages des élèves. On se rend compte que dans certains cas, des élèves après 3 ans, 4 ans, n'arrivent pas à lire correctement une phrase simple.
Et ni même parfois même à écrire leur prénom.
Exactement. Donc ça traduit la qualité, la mauvaise qualité de l'éducation.
Et
ça,
une application numérique pourrait tout à fait améliorer les choses parce que ça permettrait à l'enfant de travailler à la maison, d'avoir accès à des exercices, d'avoir une interactivité
Voilà, exactement. Ça peut permettre de faciliter les apprentissages parce que malheureusement, dans beaucoup de cas, en dehors de l'école, les enfants n'ont rien à lire. Et s'ils n'ont rien à lire, en dehors de la salle des classes, c'est évidemment qu'ils n'ont pas la possibilité d'exercer leurs habiletés, d'exercer
leurs apprentissages. Alors, des livres pour enfants, des tables de multiplication, des exercices de mathématiques, tout est possible sur une application numérique. Et surtout, il faut que ça soit dirigé vers les filles, celles qui ont encore à progresser à l'école. Sina Toussaka, on redonne la date limite, 30 juin pour le concours.
30 juin et l'adresse à savoir, c'est appafrique.rfi.fr/participer.
Voilà, le concours est ouvert à partir d'aujourd'hui chez 7 milliards de voisins, RFI Challenge App Afrique. On attend de vos nouvelles. À demain sinon les voisins.